Vous êtes avec SBS French.
Les grands titres de ce 26 novembre, le président directeur général de Westpac en Australie a démissionné dans le sillage d'allégations de violation des lois anti-blanchiment. La Chine rejette les allégations d'ingérence dans la politique australienne. 9 millions de Britanniques toujours pas inscrits sur les listes électorales pour les élections du 12 décembre prochain. Le porte-parole des finances de l'opposition a déclaré que le chef de Westpac n'avait pas d'autre choix que de démissionner à la suite du scandale bancaire de violation des lois anti-blanchiment. L'AUSTRAC, l'organisme de réglementation australien en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent, accuse Westpac de faiblesse en matière de surveillance, contraignant le directeur général Brian Hartzer à présenter sa démission. AUSTRAC allègue que Westpac a commis des infractions aux lois sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et AUSTRAC demande des sanctions. Jim Chalmers, le porte-parole du Labour, déclare que les révélations sont honteuses, effroyables et très sérieuses.
This decision today doesn't of itself fix all of the issues which have emerged in recent weeks about the behaviour of Westpac over a period of some years. There's a legal process. I think Australians will be looking for all kinds of accountability when it comes to the behaviour of Westpac.
Et le ministre fédéral Greg Hunt a déclaré que le départ du PDG de Westpac était approprié.
It follows the strongest, clearest comments from the Prime Minister and the Treasurer about community expectations, government expectations in the face of what is a serious and profound breach.
La sénatrice travailliste Penny Wong a souligné que les relations de l'Australie avec la Chine devenaient de plus en plus complexes. La Chine a nié avoir tenté de se mêler du Parlement australien en finançant un membre du Parti libéral, Nick Zhao, qui a ensuite été retrouvé mort après avoir apparemment approché le service australien de renseignement ASIO. L'organisation a confirmé qu'elle enquêtait activement sur le prétendu plan chinois d'infiltration du Parlement et le premier ministre a déclaré que la tentative d'espionnage en Australie était inquiétante. Penny Wong a déclaré que sa demande au Parlement d'organiser des réunions d'information sur le renseignement national avait été refusée par le gouvernement fédéral.
We need to, as a country, work out how we engage best with China in a way that furthers our interests and safeguards our sovereignty and our democracy. And I'd encourage the government to lead this discussion and to engage the Parliament, the opposition, the community on this discussion.
La Commission des droits de l'homme a critiqué les retards rencontrés par un groupe de 30 000 demandeurs d'asile arrivés en Australie par bateau sur une période de près de 2 ans. Les demandeurs d'asile se sont vus interdire de présenter une demande de protection pendant les 4 années suivant leur arrivée à partir de 2012, suscitant l'inquiétude des experts en santé mentale au sujet de leur état. Le commissaire aux droits de l'homme, Edward Santow, a déclaré que les retards dans le traitement de leurs dossiers s'éterniser.
While people are waiting for their matter in court, they're often treated as no longer eligible for any kind of assistance. And so that means that people can be in huge poverty and distress while they pursue their legal right to go through the judicial system to test their claims.
L'Asylum Resource Center exhorte la sénatrice Jackie Lambie à voter contre l'abrogation de la loi de l'évacuation médicale, Medivac Laws. Le groupe craint que les lois qui permettent aux médecins d'avoir davantage de leur mot à dire dans les transferts médicaux de demandeurs d'asile en détention offshore seraient abrogées par la coalition cette semaine. Le sénateur Lambie tient un vote crucial au Sénat et a déjà indiqué qu'elle souhaitait modifier le système. Karapana Diotitidis, le directeur général de l'Asylum Resource Center, a déclaré que la législation sauve des vies et que les médecins devraient être responsables des décisions médicales et non pas les politiciens.
Today we stand united as a community sector across all political lines, calling on Jackie Lambie to save Medivac. Saving Medivac is about saving Australian values. It's about saving the heart and conscience of this nation.
Une enquête nationale auprès des jeunes a révélé que la santé mentale était la principale priorité des jeunes Australiens. Un rapport de Mission Australia montre que la proportion de jeunes citant la santé mentale comme un problème d'importance nationale a augmenté au cours des trois dernières années. L'enquête de cette année a également interrogé les jeunes sur l'intimidation pour la première fois et les résultats ont montré que plus d'un sur cinq avaient vécu une expérience au cours des 12 derniers mois. Près de la moitié des jeunes interrogés avaient été témoins d'actes d'intimidation et un tiers via les médias sociaux ou en ligne. Le rapport a également révélé que 60% des adolescents âgés de 15 à 19 ans se sentaient heureux ou très heureux de leur vie. Les restes d'ancêtres autochtones d'Australie sont en train d'être rapatriés de l'Allemagne. Les 42 corps seront rendus aux communautés aborigènes du Victoria, d'Australie occidentale et de l'Australie méridionale. D'autres seront placés temporairement dans les centres de soins pour savoir d'où ils sont originaires. Les restes auraient été retirés des tombes et des hôpitaux, puis envoyés à l'étranger. Ailleurs dans le monde, aux États-Unis, le chef de la Navy, Richard Spencer, a été limogé suite à son refus de réintégrer un soldat accusé de crimes de guerre malgré les demandes du président Donald Trump. Le ministre de la Défense, Mark Esper, a demandé le départ du chef de la Navy. Reportage Eric de Salve, qui est le correspondant de RFI à San Francisco.
C'est une nouvelle illustration des tensions entre Donald Trump et les chefs de son armée. Au cœur de cette affaire, le sort du soldat Gallagher, un chef de commando marine accusé de crimes de guerre en Irak, meurtre de civils, élimination de djihadistes au couteau de chasse. Gallagher a même été condamné pour avoir posé sur une photo devant le corps d'un adolescent combattant de l'État islamique. Mais Gallagher a ensuite été gracié par Donald Trump. Depuis, le président américain demandait notamment sur Twitter cette semaine sa réintégration pure et simple au sein de son commando d'élite. Son ministre de la Défense, Mark Esper, avait donné son accord, mais le chef de la marine, Richard Spencer, refusait tout net cette réintégration au nom, dit-il dans sa lettre de démission, de sa conscience. Selon le Pentagone, Richard Spencer a même tenté de négocier avec la Maison-Blanche contre l'avis de ses chefs pour faire passer ce soldat devant une commission disciplinaire et le pousser en douceur vers la retraite. C'est ce qui a causé son départ. Ce lundi, le ministre de la Défense confirme que c'est cette tentative de négociation secrète qui l'a poussé à le limoger. Mark Esper annonce aussi avoir eu 30 minutes d'échange téléphonique ce dimanche avec Donald Trump qui lui a donné l'ordre formel de maintenir le soldat à son poste. Malgré ses accusations de crimes de guerre, Gallagher sera donc réintégré au sein des forces spéciales américaines.
En Grande-Bretagne, la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales est ce mardi 26 novembre à minuit. Sinon, les électeurs pas inscrits ne pourront pas voter le 12 décembre prochain. Il serait 9 millions pas inscrits pour l'instant. Et puis, le Parti conservateur a lancé son manifeste de campagne. Reportage Marina Daras, RFI.
On attendait de grandes promesses sur le Brexit. Boris Johnson a effectivement promis un nouveau vote sur l'accord de retrait avant Noël si les conservateurs remportent une majorité de sièges. Cela laisse deux petites semaines pour organiser ce vote sous la houlette du nouveau président de la Chambre des communes et des députés fraîchement élus. Il faut dire que le Parti conservateur présente des candidats qui ont promis de soutenir le gouvernement dans les votes sur le Brexit. Les annonces visant les taux d'imposition n'ont de but que de faire opposition aux dépenses promises par les travaillistes qui veulent nationaliser un nombre important de services. Pour chaque livre sterling dépensé par les conservateurs, les travaillistes entendent en dépenser 28. Un manifeste assez modeste donc, sans grandes ambitions, et qui entend construire sur les chantiers des années précédentes. D'une part parce que d'après les sondages, les conservateurs restent en tête et n'ont donc pas besoin d'un programme coup de poing, mais également parce que lors de la campagne de 2017, les grandes promesses de Theresa May n'ont pas convaincu. Conserver les acquis sociaux plutôt que de tout chambouler semble être la nouvelle stratégie du Parti conservateur.
Un couple français a été tué par balle dimanche dernier dans la capitale haïtienne de Port-au-Prince. Le couple était arrivé dans le pays pour une adoption. Précision de Stéphanie Schuller pour RFI.
Les victimes sont une femme et son mari, tous deux âgés d'une quarantaine d'années, originaires de l'Ardèche dans le sud de la France. Ils étaient arrivés ce dimanche à Port-au-Prince pour adopter un enfant haïtien, adoption pour laquelle ils avaient obtenu un agrément. Ils auraient été tués par balle en fin d'après-midi devant leur hôtel. Pour l'instant, le ministère français des Affaires étrangères, où une réunion de crise a eu lieu cet après-midi, se refuse de tout commentaire sur les circonstances du drame, ainsi que sur l'endroit exact où il s'est déroulé. Les autorités françaises soulignent qu'une enquête est menée par la justice haïtienne, mais n'excluent pas l'ouverture d'une procédure judiciaire en France. La police nationale haïtienne, quant à elle, n'a pas encore réagi. Depuis le mois d'août, Haïti traverse une grave crise avec des manifestations à répétition, souvent émaillées de violence. Plusieurs régions du pays se trouvent aujourd'hui sous le contrôle de gangs armés. Le ministre français des Affaires étrangères recommande sur son site internet de reporter tout voyage jusqu'à nouvel ordre en Haïti, rappelant que l'ensemble du territoire haïtien est déconseillé, sauf raison impérative.
Les élections locales à Hong Kong, avec la victoire écrasante des pro-démocratie dimanche dernier, selon des médias hongkongais, sur les 452 sièges qui étaient à pourvoir, les candidats pro-démocratie ont remporté 388 sièges, soit un gain de 263 sièges par rapport au scrutin de 2015. Écoutez Eric Lai, militant pro-démocratie à Hong Kong.
C'est un résultat extraordinaire, c'est du jamais vu. On parle d'une victoire totale pour le mouvement pro-démocratie. Pour nous, c'était un référendum à la fois pour ou contre la violence policière et pour ou contre le maintien de Carrie Lam malgré l'échec de sa gouvernance. Maintenant, la première chose à faire, c'est que le gouvernement reconnaisse ses résultats et fasse des concessions. Parce que c'est la même rhétorique depuis le mois de juin. Elle dit qu'elle respecte l'opinion du peuple, qu'elle fera preuve d'humilité. Mais derrière, il n'y a rien de concret. Alors qu'on attend tous la création d'une vraie commission indépendante sur les violences policières. Elle prétend que ça va miner le moral des policiers. Mais en réalité, à quoi pousse son inaction ? À l'abus de pouvoir et au recours excessif à la force.
Michael Bloomberg, officiellement candidat à la Maison Blanche, il a été maire de New York pendant 12 ans. Il rejoint la primaire démocrate qui compte pour l'instant 17 candidats. Reportage depuis New York de Lubna Anaki pour RFI.
Mike Bloomberg for president, jobs creator.
Dès l'annonce de sa candidature, une vidéo présentant Michael Bloomberg a été rendue publique. Sa biographie sur les réseaux sociaux affiche désormais « candidat 2020 pour la présidence des États-Unis ». À 77 ans, Michael Bloomberg rejoint ainsi une primaire déjà riche en candidats. Il estime être le mieux placé pour battre Donald Trump. « Nous ne pouvons pas nous permettre de passer 4 autres années avec Donald Trump comme président. Les enjeux sont trop élevés », écrit-il. Homme d'affaires, maire de New York durant 12 ans, Michael Bloomberg met en avant une image de leader et mise sur son expérience, un parcours tout de même marqué par des polémiques, des propos jugés offensants envers les femmes ou encore une politique policière discriminatoire envers les Afro-Américains et les Latinos durant son mandat new-yorkais. Pour rattraper son retard dans la course, Michael Bloomberg compte notamment sur sa fortune, estimée à plus de 50 milliards de dollars. Il a déjà dépensé des millions pour s'offrir des publicités à la télé, ce qui lui vaut les critiques de ses rivaux démocrates qu'il accuse de vouloir s'acheter l'élection. Michael Bloomberg, lui, rappelle qu'il a toujours mis sa fortune au service du pays en s'investissant dans des causes comme le changement climatique, la lutte pour le contrôle des armes à feu ou encore la dette étudiante.
Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie, Perth maximal de 32 degrés, Adélaïde maximal de 20 degrés, Melbourne 16, Hobart 18, Canberra 27, Sydney 33, Brisbane 31, Darwin 34 et à Alice Springs maximal de 33 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 26 novembre. Le PDG de Westpac en Australie a démissionné dans le sillage d'allégations de violation des lois anti-blanchiment. La Chine rejette les allégations d'ingérence dans la politique australienne. 9 millions de Britanniques toujours pas inscrits sur les listes électorales pour les élections du 12 décembre prochain. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com sbs.com.au/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.